dissonances.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Et puis, je veux que ce service, hein, parce que comme tu le disais en préambule, avant de mettre un magasin, j'ai bien précisé que c'était un service. Là, elle reste à la personne qui l'a gardée, et les seuls détenteurs, si toutefois ils sont détenteurs, c'est la famille, c'est les proches. C'est sûrement pas moi, et sûrement pas l'Église. C'est le dernier moment de votre vie, prenez-en soin. Voilà, ça c'est marqué sur ma page, ça c'est quelque chose qui émane, avec lequel nous avions réfléchi avec mon camarade. Et c'est vrai que cette phrase a vraiment son authenticité, quoi. Je veux dire, elle parle d'elle-même. Voilà, il faut en prendre soin, il faut prendre soin des gens, ça c'est très très important.
Joël Duché dirige une entreprise funéraire dans le sud Aveyron.
Pour lui, ce n'est pas un commerce, mais plutôt un service rendu à la personne, comme il se plaît à le souligner.
À l'heure de passer le relais, il évoque pour dissonance son parcours de vie qui l'a conduit du social au funéraire.
Éducateur, travailleur social, toutes ces différentes expériences l'ont amené à avoir sa propre vision et sa propre pratique sur l'accompagnement des familles au moment du décès d'un proche.
Son expérience dans le domaine de l'aide aux plus démunis n'est certainement pas étrangère à l'esprit d'ouverture, au regard humaniste et à la dimension sociale de sa pratique professionnelle. La vision humaniste de Joël Duché à l'heure du dernier accompagnement sur dissonance.
Joël Duché, je t'ai rencontré à l'occasion d'obsèques d'amis et il m'était arrivé déjà de participer à d'autres obsèques, mais j'ai été fortement impressionné par ta façon d'être présent, d'accompagner les familles. La première fois que je t'ai rencontré, c'était un enterrement avec une cérémonie en plein air, un cercueil posé sur l'herbe et toi qui te faisais tout discret dans un coin. Après, à l'occasion de sépultures laïques où tu as su respecter cette non-religion et tu as été très sobre là-dessus, j'ai trouvé ça formidable. Et même après, je me rappelle d'une sépulture où il y avait que deux personnes et tu as su avec dignité et humanité combler le silence qu'il aurait pu y avoir, et tu as fait de ce départ quelque chose d'intense et de profond. Donc je voudrais savoir pourquoi tu as cette approche là de la mort.
Oh là là, ça c'est une excellente, j'en sais fiche rien, parce que d'une part je n'étais pas prédestiné à faire ce travail, oui. Déjà et d'une, hein, parce que j'ai travailler ailleurs et surtout dans le social. Alors, peut-être qu'il y a une corrélation, vraisemblablement, par rapport au contact avec les gens et la proximité et les liens qui pouvaient se créer avec des gens qui étaient en difficulté. À l'époque, j'avais un rapport avec la mort qui était assez terrifiant, c'est-à-dire que j'en avais un peu peur et je n'osais pas m'y confronter, même si elle devait malheureusement arriver à un moment donné de sa vie.
Tu dis à l'époque, c'est-à-dire avant de gérer une structure de pompe funèbre.
Avant de gérer une structure de pompe funèbre. Et le hasard, même si on peut considérer qu'il n'y ait pas de hasard, a voulu que pour des raisons professionnelles, j'ai dû changer d'orientation pour le fait que mon papa était malade et qu'il a fallu s'en occuper, et que j'étais le fils de proximité qui pouvait s'en occuper. Et bon, effectivement, ça n'a pas été facile, et donc ça m'a amené à me confronter à la mort et à la fin de vie. Et par la suite, donc, j'ai dû quitter mon travail professionnel puisque j'étais directeur de CHRS. Un CHRS, c'est pas centre hospitalier, mais c'est centre d'hébergement d'urgence. C'est-à-dire qu'on recevait tous les SDF, toxicomanes, sortants de prison, mères battues, et puis réfugiés politiques. Donc, il a fallu que je démissionne pour m'occuper de mon papa, donc ce qui m'a permis de finir quelques études. Et puis, une fois que malheureusement j'ai accompagné mon papa jusqu'à sa dernière demeure, bon, il a fallu retravailler, et on m'a fait comprendre que j'étais trop vieux pour me dire que j'étais trop cher, quoi. Voilà. Donc, il a fallu se réorganiser et travailler, et l'opportunité a trouvé que on me proposait de reprendre une pompe funèbre. Alors, bien entendu, au départ, j'ai refusé parce que je me voyais pas du tout là-dedans, parce que j'y connaissais rien. Et puis, j'avais ce rapport à la mort qui était assez difficile. Et donc, bon, puis voilà. Par le fait, j'ai dit, allez, pourquoi pas, je vais aller voir, je vais me rencontrer la personne qui vendait, et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé avec ce monsieur, qui était monsieur Salina, qui a peut-être su, ou qui a vu en moi, je sais pas, une capacité, et donc voilà. Donc je me suis lancé dans l'aventure, et j'ai dit, je verrai bien, et j'ai été fortement surpris de voir qu'effectivement, effectivement, la mort me faisait rien, quoi. Je veux dire, elle ne me faisait rien, voilà. Et je voyais simplement des personnes qui n'étaient plus là et qui allaient partir, et avec qui on n'aurait plus de contact. Et parallèlement, j'ai vu les familles arriver qui, eux, étaient dans une tristesse, qui effectivement, étaient peut-être pas préparés, ou voyaient aussi les choses différemment. Et puis, de fil en aiguille, je me suis laissé transporter, et je me suis laissé bercer par le funéraire, et que je n'y connaissais rien. Je n'ai pas eu de formation particulière, les choses sont venues tout à fait naturellement, et le personnel avec qui je travaillais ont même été surpris de mon aptitude dans lesquelles je pouvais effectivement m'approcher des familles, et comment j'allais pouvoir travailler dans toujours une improvisation. Rien n'était calculé, je ne calculais rien. C'était en fonction de ce qui se passait, du feeling. Il se passait rien. S'il y avait quelque chose qui devait se produire, on le faisait.
Et est-ce que ça vient pas de ton passé dans ce centre peut-être. D'accueil d'hébergement où tu étais aussi, il fallait improviser en fonction du public reçu, peut-être?
Non. C'est ce que j'en ai déduit, parce que c'est vrai que j'ai le contact assez facile avec les gens, je suis assez engagé par ce que je suis en tant qu'être humain, et ce que j'ai été, de ce que j'ai fait. J'ai toujours fait les choses avec le plus et le grand maximum de sincérité et de transparence. Donc je pense que c'est peut-être les deux ingrédients qui ont été très importants. Et c'est vrai qu'avec les gens, je me laisse aller avec eux, et j'essaie au maximum de les rassurer, d'être, comme vous l'aviez mentionné, le plus discret, parce qu'il faut être très discret, mais présent. Donc voilà, c'est ces éléments-là qui ont fait qu'avec les personnes... Bon, ça marche pas toujours, hein. Il y a certaines personnes, parce qu'il faut comprendre qu'ils sont dans une détresse, et ils ont pas trop envie, ils vont chercher le petit défaut, et voilà, ce qui leur permet de se rassurer à la fois. Donc il faut aussi accepter le mécontentement, hein, et il y en a quelquefois, même si ce mécontentement est difficile, même s'il est pas justifié, il faut le faire avec, et il faut essayer de combiner tout ça. Alors des fois c'est facile, des fois c'est pas facile. Et puis, je veux que ce service, hein, parce que comme tu le disais en préambule, avant de mettre un magasin, j'ai bien précisé que c'était un service, hein, parce qu'on était dans le rural, et puis aussi, moi j'ai été élevé dans le rural, et c'est vrai que j'ai une affection particulière au rural, surtout actuellement où on sait qu'il y a une désertification qui est très importante, et que les personnes âgées se retrouvent un peu isolées et un peu coupées de tout ce qu'elles avaient avant de matériel, que ce soit le facteur, le tabac, le bistrot, les petits magasins, les boucheries, les charcuteries. Ici, en plus, moi, j'étais aussi dans le rural où il y avait des gens qui habitaient très très loin et qui n'avaient pas de véhicule. À l'époque, c'était le vélo ou la mobylette. Hein, voilà, donc c'était le facteur qui était un peu le lien social. Et c'est vrai qu'on y était sensible, nous, tout gamins, parce que on était bercés là-dedans. Et c'est pour ça qu'ici, quand je suis arrivé à Camarès, dans le milieu de Camarès, ouais, j'ai vu que ça manquait, quoi. Et j'ai vu que les gens étaient très très attachés à leur terre, à leur maison, hein, comme j'ai dit, ils y sont nés, ils vont y vivre, ils vont y s'y marier et ils vont y mourir pour la plupart. Et donc ça c'est quelque chose. Et puis j'avais beaucoup de gens qui me le disaient, hein, il faut aller à Saint-Afrique. Alors c'est pas loin, Saint-Afrique, hein, je veux dire, mais voilà, c'est pas chez eux. C'est comme ça. Et c'est vrai que j'avais sur Belmont un ami qui était dans le social et qui a été moteur de la création de la maison de retraite. Et c'est vrai qu'un jour il me racontait que il fallait aussi prendre en compte quand les personnes rentraient de la maison de retraite. Des gens qui, par exemple, ont toujours vécu à Belmont, qui avaient leur maison qui donnait sur l'église, sur la basilique, je sais pas si c'est une basilique, je crois.
Belmont,
ouais. Ouais, ça, voilà. Ouais. Et
une abbatiale.
Et voilà, une abbatiale, voilà. Et il me disait que quand il y avait la personne qui rentrait, il fallait aussi prendre note, peut-être de mettre leur chambre avec une vue qui donnait sur l'église, parce que c'était ce qu'ils avaient toujours vu et qu'il fallait en prendre acte. Enfin, il y avait plein de petits points comme ça. Et c'est vrai que c'est des choses qui me touchent, qui me sont sensibles. Et effectivement, ben, les gens, quand je les reçois, malheureusement pour un décès, ben, j'essaie au maximum d'être le plus proche. Mais c'est toujours de l'improvisation. Je sais pas ce que je vais dire, je sais pas ce que je vais écrire, je sais pas ce que je vais faire. Si nous prenons, par exemple, les obsèques que nous avons fait avec cet institut, je ne savais pas ce que j'allais faire. Institutrice, et juste avant, il y a quelqu'un qui m'a dit, d'un certain âge, qui m'a dit, ça a été mon institutrice. Et je ne me rappelle plus de son prénom, mais il me dit son prénom. Mais on se rappelle tous du prénom de son institutrice. C'est moi, je me rappelle du prénom de mes, quand j'étais à la maternelle jusqu'en primaire, jusqu'en CM2, je me souviens. Et voilà, et c'est parti comme ça, quoi. Mais en plus, il y avait le support de la musique que tu as mis, bon, qui était assez important. Et voilà, c'est parti. Et je me souvenais que avec cette maîtresse, et ben oui, quand on se mettait en rang, elle tapait dans les mains et on se mettait en rang. Et voilà, et puis c'était comme ça. Puis voilà, ça arrive comme ça, ça vient comme l'écriture. Si je vois que la famille elle est sensible, si je vois qu'elles sont bon, ben je me lève à 3 heures du matin et j'écris, voilà. Alors bien entendu j'en parle d'abord aux gens, hein, je leur dis s'ils veulent bien parler, bon, ils me disent oui, ils me disent non, bon.
Une belle journée quand cette vie s'achève, je m'envolerai vers pays de rêve, je m'envolerai, je m'envolerai tout là-haut, je m'envolerai comme un oiseau quand je meurs, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Dans ce monde, je m'envolerai de cette prison comme une colombe, je m'envolerai, volerai, je m'envolerai tout là-haut, je m'envolerai comme un oiseau quand je meurs. Alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. encore quelques journées de douleur et je m'envolerai vers une terre où règne le bonheur. Je m'envolerai,
humaniste de Joël Duché à l'heure du dernier accompagnement sur Dissonance.
Alors, c'est bien ce que tu dis quand tu parles de service à la personne, parce que souvent dans des obsèques, il y a le côté, alors je parle crûment, mais enterrement, mise sous terre, et on se dit que le service à la personne, tout le côté un peu hommage, c'est l'Église qui va le faire.
Ouais, alors, mais ça, c'est une démarche...
Pour les croyants, quoi.
Oui, ben voilà, c'est une démarche obligatoire, parce que les gens sont quand même très enracinés dans leur foi et dans leur représentation catholique, ici, même si on est sur une terre protestante, mais même les protestants, ils sont très, très attachés aussi. Bon, après, effectivement, bon, c'est vrai que... Le fait de venir ici, moi j'apporte quelque chose de nouveau, une prise en charge tout à fait différente de celle de mes collègues, hein, et comme je dis, ici, moi je n'ai pas de concurrents, j'ai des collègues, je veux dire, on travaille vraiment dans une transparence, moi j'apprécie, et bon, dans le Cher où j'étais avant, ça se passait pas comme ça, quoi. Et alors c'est vrai que pour eux c'est nouveau de prendre la parole au cimetière. Alors ils aiment pas trop, mais bon, il faut qu'ils sachent. Et moi je leur dis tout à fait gentiment, il faut qu'ils sachent que c'est un peu de leur faute malheureusement, parce que ils ont plus de prêtre, le prêtre ne vient plus au cimetière, et le prêtre avait, bon, maintenant il y a les laïcs qui viennent, mais bon, on est toujours dans la prière, mais les gens, et ça je crois que c'était au milieu du XVIIIe siècle, où la parole a été restituée à la famille dans les cimetières, parce qu'il y avait ce besoin et il y avait cette demande de la famille de pouvoir très très succinctement relater de ce que cette personne a été pendant sa vie. Et je crois que c'est important, parce que les personnes, quand elles partent, qu'elle soit jeune, qu'elle soit moins jeune ou qu'elle soit âgée, il y a une page d'histoire qui se tourne, et ces gens-là ont laissé une trace. Ils ont laissé une trace. Peu importe la trace qu'ils ont laissée, n'empêche qu'ils ont été reconnus par les autres. Et jusqu'au bout, on doit les reconnaître en tant que tels. Et moi, ça m'est important. Comme certaines personnes me disent, on ne veut pas parler. Bon, sauf que là où ça ne colle plus, c'est que quelquefois les familles ne demandent pas à ce qu'il y ait encore une prière au cimetière, mais ils le font quand même. Pourquoi, je sais pas. Parce qu'il y a peut-être un besoin, parce qu'il y a peut-être quelque chose. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis d'une culture catholique. Comme je leur réponds, mais vous pouvez remarquer que ça soit à l'église ou au cimetière, je connais mes prières et je les dis, parce que voilà, j'ai eu une éducation comme celle-ci. Mais bon, alors, est-ce qu'ils veulent continuer à garder un petit peu leur pseudo-pouvoir, parce que comme j'ai dit une fois, c'est fini, l'Église et l'État, c'est terminé. Et comme je leur dis, l'église, ce n'est plus chez vous. Le cimetière, ce n'est plus chez vous. Ça appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde. Un petit peu plus les personnes qui viennent y prier, qui viennent se recueillir, qui viennent trouver autre chose. Mais l'église est ouverte à tout le monde. Ils ne sont plus propriétaires de rien. Et encore bien moins de l'âme.
Bien sûr.
Et encore bien moins de l'âme. L'âme, elle reste à la personne qui l'a gardée. Et les seuls détenteurs, si toutefois ils sont détenteurs, c'est la famille, c'est les proches. C'est sûrement pas moi et sûrement pas l'Église.
Et tu accompagnes aussi les familles lors de l'inhumation, mais après, où tu restes en contact longtemps avec certains. J'ai souvenir d'une histoire de cendres, de cendres dont tu as aidé la compagne à disperser un peu partout. Et voilà, j'ai trouvé ça important. Ça ne s'arrêtait pas à la cérémonie, la facturation. Tu es encore là après.
Je suis toujours là. Comme je dis aux gens, je suis à votre disposition. Et ça, c'est vrai. Je suis à leur disposition. Pendant et après. S'il y a l'après. Parce qu'effectivement, les gens, après, ils sont encore un peu démunis, ils savent pas trop, et la preuve, c'est qu'on leur dit un peu tout et n'importe quoi. Et moi, c'est comme je dis, je le disais assez vulgairement, lorsqu'on reçoit une famille ici qui vient de perdre un être, je peux vendre un aquarium si je veux, hein, c'est d'une facilité de la... Non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, on s'apaise. Les gens arrivent, même s'il faut revenir le lendemain, on arrête. Je leur dis, si je vois que c'est trop douloureux, on arrête. Écoutez, la nuit porte conseil, on se revoit demain, je suis présent. Et l'après, il y a toujours l'après dans la mesure où les gens ont besoin. Si je peux encore leur apporter quelque chose, je le fais volontairement. Et en ce moment, je suis en train de m'occuper d'une situation parce que les enfants sont loin, parce que je m'occupe de débarrasser la maison, de laver la maison, je m'occupe de trouver les gens qui vont le faire, je vais m'occuper de ça s'ils le permettent. Voilà. Hein, bon, ils m'ont donné carte blanche, je m'en occupe. J'y étais encore ce matin. Voilà. Bon. C'est comme ça, mais c'est normal. Il y a rien d'anormal et c'est pas rémunéré, ça. Hein. Je le fais de ma personne. Hein. Voilà, je disais à la dame ce matin, je l'avais au téléphone, la fille. Je lui ai vendu deux parce qu'ils veulent tous des babons. C'est un bazar. Bon, je leur ai vendu des cages à oiseaux et puis voilà, je lui ai dit, je vous remettrai le liquide, c'est à vous, moi je veux pas. Voilà, je vais tout lui redonner et je lui trace au jour le jour de ce qui se passe, quoi. Voilà. Mais ça, c'est encore une fois, c'est normal. Je vois pas comment, parce que les gens ils savent pas. Puis ils ont aussi besoin de ça et on n'a pas à leur fermer la porte, au contraire.
C'est normal pour toi ou des structures qui font à peu près la même approche, mais. Pour avoir été confronté à un crématorium dans le département d'à côté, c'est pas du tout ça, c'est minuté, c'est on vous dit messieurs vous sortez. L'humain est important et pour d'autres c'est plutôt l'argent.
Mais bon, parce que ce sont des structures qui sont chronométrées, il y a des respects de quoi, je sais pas, il y a des protocoles qui sont faits, et c'est vrai que c'est... Moi, j'ai eu l'expérience à un crématorium, où effectivement, bon, de la part du crématorium et de ma part, on a pris du retard. Donc la cérémonie s'est faite dans la salle... là où il y a les hommages, et à un moment donné, bon, effectivement, on a un peu mordu sur le temps, et les gens venaient une dernière fois rendre un hommage au cercueil, et il y avait des gens qui écrivaient, puisque maintenant on peut écrire sur les cercueils, c'est autorisé, le type a refoulé la personne, quoi. Et là, moi, ça m'a choqué. Et ça m'a doublement choqué, c'est moi qui me suis pris l'agressivité de la famille, parce que, alors que, là, j'ai dit au type, j'ai dit non. Bon, mais le mec, il dit, c'est là. Bon, alors, moi, j'ai pas d'heure. Moi, comme je dis aux familles, à partir du moment où nous devons faire les obsèques d'une famille, je passe le temps qu'il faut. C'est-à-dire que je reste au cimetière, j'y reste pas de plomb non plus, mais j'attends que les gens, et après je viens remettre le registre à condoléances, je viens leur dire qu'on va tout remettre propre, qu'on va tout fermer, je m'en vais pas. Je sais que certains collègues, ils ont fini de mettre le de faire l'inhumation, ils s'en vont.
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra.
La vision humaniste de Joël Duché à l'heure du dernier accompagnement sur Dissonance.
Est-ce que dans le fait d'apprendre ce métier, parce que c'est quand même un métier, gérer des pompes funèbres, il y a une formation sur l'approche de l'humain à ce moment-là? Ou alors non, c'est une boutique où on vient vendre des cercueils, des fleurs et faire la cérémonie?
Il y a une formation. Il y a une formation. Moi, je l'ai faite à Niort avec Point Funé Plus, que je représente parce que bon, c'est mon fournisseur, voilà. Alors il y a effectivement une formation qui dure 15 jours et sur lesquelles on a des approches au niveau, après on y prend, bon c'est pas non plus d'un niveau extraordinaire, non je crois que ça vient de la personne surtout, c'est la personne, comment elle a envie de s'investir dans ce travail, quoi. Je veux dire, il y en a, ils sont foutent royalement, moi j'ai des collègues, ils sont foutent royalement, ils font les factures, ils payent, terminé, ils font enterrement, voilà, basta, quoi. Voilà, bon. Il y en a d'autres qui travaillent pas comme ça. Il y en a d'autres qui prennent leur temps. Ils veulent aussi que leur service soit fait parce que c'est cher un enterrement, quoi qu'on en dise, hein. On est entre du 3 500 et 5 000, hein, voire un petit peu plus. Donc, les gens, même s'ils sont dans la douleur, ils attendent de quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et il y a beaucoup de gens qui, effectivement, se crispent parce qu'ils se rendent compte, bah, les mecs, ils font leur boulot, ils se barrent, terminé, vous avez payé 5 000 et basta, quoi.
Comment tu analyses le fait que les familles, encore aujourd'hui, c'est certainement normal, mais veulent que ce départ, il y a un acte qui soit fort, qui soit posé, c'est une cérémonie forte et importante qui soit posée, parce qu'il y a aussi des familles qui se disent, ben ça y est, il est mort, on l'enterre et on passe à autre chose.
Alors, après, c'est selon comment les personnes philosophiquement sont introduites, mais alors, à la fois parce que il faut bien considérer que ça soit dans les deux cas, c'est-à-dire le premier cas que les gens disent, voilà, c'est aussi respecté. Moi, je dis qu'il y a du respect parce que c'est peut-être aussi la volonté de la personne qui ne veut pas ce qui est des prises de parole, qu'il y ait une messe, qu'il y ait un recueillement, voilà. Bon. Mais je pense que c'est respect. C'est respecter la volonté et respecter de quelle manière les gens vivent et comment ils abordent les choses. D'autres, ils veulent qu'effectivement, pas toujours par du respect, qu'il y ait une parole qui soit mise, qu'il y ait des photos, qu'il y ait des images, qu'il y ait un film, qu'il y ait quelque chose, la traçabilité de la personne qui a vécu parce que elle a laissé un souvenir indélébile au niveau de sa famille, si c'est les mamies, les papis, de leur engagement, de leurs choses, comme les militaires pareil, ils ont une autre forme de cérémonie, mais c'est bien là encore par rapport au respect, par rapport à l'uniforme, par rapport chacun j'allais dire a envie de faire les choses, et ce qui est important c'est de pouvoir restituer ça aux gens, c'est-à-dire moi je les vois les gens, je regarde quand on arrive au moment de choisir le cercueil. Bon, c'est pareil. Le cercueil, il y a un prix quand même. Faut le savoir. Et il y a les gens, comme je leur dis, mais faut leur dire, ne culpabilisez pas si vous prenez le moins cher. Faites en fonction de ce qu'était la représentativité de votre défunt. Ici, la parole est, elle reste là. Elle vous appartient, elle nous appartient. Et ne voyez pas chagrin. Et ne vous sentez pas obligé de prendre le milieu ou le plus cher. Si votre parents étaient quelqu'un de très nature, faut pas hésiter. Et on voit que les gens sont soulagés quand on leur dit, et forcément ils se libèrent et ils vont jusqu'au bout et ils respectent la parole de l'autre jusqu'au bout. Et tous les gens que je vois, ils font à leur manière. Quoi. Je veux dire, moi je les laisse libres de faire. S'ils veulent danser, ils dansent. S'ils veulent pas danser, ils dansent pas. S'ils veulent manger, ils mangent. S'ils veulent rester, ils restent. Voilà. Et dans cette philosophie-là, c'est comme je leur dis, et ça, c'est quelque chose qui est important, quand ils viennent et que la personne repose en chambre funéraire, je leur dis, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas d'ouverture. Vous êtes chez vous. C'est important. Parce qu'en plus, c'est une maison ici. C'est pas un préfabriqué. C'est une maison. Ça fait partie des choses aussi très importantes dans la structure lorsque nous l'avons mis. J'ai dit, je veux une maison. Je veux pas de préfabriquer. Et ça, c'est important aussi. Et les gens, quand on vous leur dit, il n'y a pas d'heure d'ouverture, il n'y a pas d'heure de fermeture, ils sont chez eux. Ils viennent quand ils veulent. Voilà. Et ça, c'est important.
Alors, Joël, je crois qu'on peut le dire que tu es au seuil de ton activité professionnelle. Mmh. Que tu as laissé la place à d'autres. Quel regard tu portes sur ce que tu as fait dans aussi bien auprès des jeunes qui étaient en galère que sur les familles qui sont aussi en détresse. Est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce que
c'est pareil? Il y a de la reconnaissance. Je veux dire à partir du moment où je suppose et je pense bien supposer et là je n'exagère pas le trait. Parce que j'en suis encore même un peu ému d'ailleurs par rapport aux gens de Camarès, parce que il y a pas longtemps j'ai failli partir, j'ai été gravement malade, donc il y a une nécessité d'une hospitalisation, et j'ai eu de la part des gens de la région des retours fantastiques, des demandes comment j'allais, des nouvelles, et ça m'a beaucoup touché d'ailleurs. Je leur ai dit, je leur ai fait savoir, et je suis allé les remercier, et j'en suis encore un peu ému, tu vois. Et c'est pareil avec les gens à qui avant je m'occupais. Il y a toujours des gens qui ont gardé contact avec moi, parce que c'est comme ça, voilà, parce que
tu as mis l'humain en avant. En fait, tu remplaces pas le prêtre, parce que le prêtre est toujours là, et puis pour ceux qui sont pas croyants, tu remplaces pas quelqu'un qui n'officie. Mais il y a cette relation, le temps que tu prends avant de... On vient pas chez toi pour acheter un cercueil et payer une cérémonie.
Non, c'est important. Ouais. C'est très, très, très important. Et les gens et les Camarésiens m'ont, à partir du moment où on a fait le projet, ça a été une ligne de croisière tout à fait normal, mais ils m'ont accueilli, voilà, ils m'ont accueilli du départ du projet au maire. Le maire a les bras ouverts, il m'a dit il y a pas de problème, feu vert de tous les côtés, et les gens ont mis le feu. Et plus j'avance dans le temps, et plus plus. Alors c'est ce qui me retarde au départ, parce que comme je dis, je peine à partir. Hein, je l'avoue, c'est mon bébé, et je me dois de restituer quelque chose aux gens de Camaret. Je leur dois quelque chose, et ce quelque chose, c'est ça. Donc c'est créé, et j'aimerais que la personne. Alors il y a des gens qui vont reprendre. Hein. Et d'abord, je voulais que ça soit des gens de Camarès. Ils sont de Camarès, donc déjà c'est un point. Mais je veux qu'ils gardent la philosophie de ça. Et ça, je me dois de le rendre. Alors ça, c'est peut-être l'excuse. Hein, c'est peut-être l'excuse que je me suis trouvé. Alors je peine, hein, parce que ça y est, je suis en retraite là. Mais je peine à partir. Je l'avoue parce que j'aime les gens, quoi. Je veux dire, donc je veux que les personnes qui reprendront aient cette même. J'ai peur qu'ils mettent deux chambres de plus. J'ai peur que ça se grossisse. J'ai peur que ça. Quoi. Voilà. Mais bon, va bien falloir un jour s'en aller, quoi.
Tout à fait. Et puis ça va faire un choc aux gens du Rougier. Là, si jamais on a une autre façon de gérer les inhumations, de revenir à du classique ou du traditionnel, là tu as mis. Tu nous as habitués à autre chose. Tu as habitué la famille à une autre façon de partir.
Ouais, c'est important. Moi, je pense que c'est important. Ça, c'est au moins une belle dernière pierre que j'aurais mis à l'édifice, quoi. Je dirais. Et c'est vrai qu'ici, comme je dis, hein, c'est un peu le slogan que j'avais mis en avant. C'est le dernier moment de votre vie. Prenez-en soin. Voilà. Ça, c'est marqué sur ma page. Ça, c'est quelque chose. Qui émane, avec lesquels nous avions réfléchi avec mon camarade, et c'est vrai que cette phrase a vraiment son authenticité, quoi. Je veux dire, elle parle d'elle-même. Voilà, il faut en prendre soin, il faut prendre soin des gens. Ça, c'est très, très important.
La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe ta plume au mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis et des grisettes, que vers le sol natal, mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf, vulgairement parlant, il est plein comme un œuf, et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creusez si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux, ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord,
sauve qui peut le vin et le pastis d'abord. Chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolu, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette auprès d'une sirène, une femme poisson. Je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première arête. Déférence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour, sur lui je renchéris. Le bon maître me le pardonne, et qu'au moins si ses vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones. Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue, et les petits enfants diront chouette un château de sable. Est-ce trop demandé sur mon petit lopin? Plantez, je vous en prie, une espèce de pin, pin, parasol de préférence, qui saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Tantôt venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil verseront les échos de Villanelle un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sartane. Et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller, avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus, si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur possible. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu, gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences. Vous envirez un peu l'éternel estivant, qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.
La vision humaniste de Joël Duché à l'heure du dernier accompagnement sur Dissonance.
Et toi qui as l'habitude, alors Joël, à quel moment de sa vie faut-il commencer à penser à sa fin de vie et à donner de l'importance au moment de son départ?
Bah, je sais pas, moi je l'ai déjà vu la fin de la vie, j'ai failli. Donc si tu veux, j'ai un peu plus de kilomètres. Comment je vais te dire, je sais pas, j'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, ça se. Alors il y a deux choses que j'aurais appris dans le mortuaire. Ça y est. Il y a deux choses. Quand on est mort, on est mort. C'est fini. Tout est éteint. T'es, il n'y a plus que nous qui voyons. Mais t'étais mort. Et quand on est au passage, moi je sais quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai faite, d'abord je voulais savoir si j'étais resté dans le réel, et je me rappelle dans la chambre de réveil, il y avait une pendule sur un temps, et j'ai mis mon doigt comme ça, et j'ai fait le sens, alors j'ai vu que c'était bon, j'ai dit c'est bon, t'es dedans, et tout de suite après la chose, ce qui est quand même assez étonnant, à qui j'ai pensé, c'est à Jean-Luc Benezèche, qui quelques semaines avant est décédé, et qui lui a pas eu le bol que j'ai eu, quoi. Je dis parce qu'on a eu les mêmes symptômes, sauf que lui il a plus le temps, quoi. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà. Après, prêt ou pas prêt, de toute façon tu dors, hein. Tu pars, tu vois rien. Hein. Moi, les gens qui voient le trou noir, le machin, le truc, ou qui voient le redéfiler leur vie, ça m'étonnerait beaucoup, parce que c'est comme une anesthésie. Hein. Une fois que t'es endormi, Moi c'est comme j'ai dit au chirurgien, vous savez que je me réveille, je réveille pas, de toute façon, j'y verrai rien. Bon, vaut mieux que je me réveille, ça c'est sûr, mais bon. Voilà quoi. Mais c'est pas parce que on a les yeux fermés, c'est pas parce que ça s'arrête que rien ne doit continuer, quoi. Je veux dire, c'est le cycle de la vie. Alors c'est peut-être pour ça que j'attache une importance de pouvoir continuer avec les défunts, quoi. Je veux dire.
Avec la famille du défunt, ouais, tu veux dire, avec, oui, parce que voilà, c'est comme ça que survit la personne, quoi.
Hein? Mais c'est important, hein. Je veux dire, il y a des gens ici, suite à des décès, on a vraiment sympathisé, quoi. On a vraiment sympathisé, voilà. Alors, et puis voilà, c'est ça. Puis il y a aussi le fait, et ça, c'était un vieux monsieur qui me l'avait dit et qui malheureusement est parti. Et il m'avait sorti une phrase chez lui. On était parti chercher des poulets. Alors il m'avait fait un contrat obsèque et il me dit, alors quelques années après, hein. Il me dit, monsieur Duché, il dit, il y a quand même quelque chose, il dit, qui doit se passer chez vous. Je dis quoi? Il me dit, c'est que maintenant, il dit, ça fait quand même 7 ans que vous êtes là, il dit, vous avez perdu des amis ici, hein. Et ça, j'avais pas calculé. Et là, ça m'avait impressionné ce qu'il m'avait dit, parce que j'ai dit, merde, il a raison. Et je m'étais pas rendu compte. J'ai dit, c'est vrai. Je dis, alors peut-être qu'il parlait de lui aussi, parce que, on avait lié d'une sympathie, et je me suis dit, il a pas tort, parce que je dis, quand vous allez partir, mon brave monsieur, ouais, vous, voilà, je vous verrai plus, quoi, voilà, et c'est vrai, et j'ai pris conscience de ça il y a pas très longtemps.
Toi qui as été habitué pendant ton précédent métier à accueillir des gens en détresse, comment tu réagis quand tu as une famille qui veut accompagner un défunt, organiser des sépultures et qui ne peut pas payer ou qui n'a pas les moyens de payer, comment vous organisez, ça doit arriver.
C'est ma pomme. Je peux pas faire autrement, tu peux pas. Mais bon, maintenant on est moins dans cette configuration parce que maintenant il y a quand même des lois qui permettent au niveau de prise en charge de la mairie, il y a des budgets qui sont prévus moindres. Bon, alors on essaie chacun de mettre la pièce à l'édifice pour qu'on puisse enterrer la personne dans le respect le plus total, quoi. Alors ici on n'a pas été confronté, mais il n'y a pas eu de, comme ils disent, de fosse commune ou de choses comme ça. Mais si on peut l'éviter, si je peux l'éviter, je le ferai. Et si les personnes n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent, quoi. Je veux dire, tant pis, hein. Je veux dire, tant pis. Et comme je leur dis, parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, on n'a pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez payer en 10, 15, 20, 30 fois, je m'en fiche, ça m'est complètement égal, mais on va déjà régler ce problème-là, c'est le plus important.
Que pense ta famille, tes enfants, ta compagne de ton investissement qui est très important dans ce boulot?
Bon, ils savent que je suis comme ça, hein, c'est que bon, des fois je leur prends un peu la tête, mais bon, je leur prends un peu la tête parce que des fois ça veut pas aller comme ça doit aller, et puis on est un peu bousculé, bon voilà, donc ça prend du temps, mais bon non ça se passe bien, hein, pas pire que mon épouse qui fait de l'esthétique, hein.
Et dernière question, Joël, en deux parties. Toi qui es dans le funéraire, comme tu dis, depuis très longtemps, comment tu vois tes sépultures et comment tu vois que les pompes funèbres accompagneront ta famille?
J'espère que ça se passera bien. Déjà, mes enfants auront pas à payer, ce qui est déjà très important, parce que je l'ai dit, hein, je le redis, c'est cher. Et moi, j'ai même pas hésité. Mais sans avoir été dans les ponts funèbres, moi, j'ai pris un contrat obsèque, c'est la meilleure des choses. Maintenant, comme je dis aux gens, il faut faire des devis, hein, il faut aller voir, il faut pas avoir peur, parce que ça fait pas mourir. Et c'est vrai que ça peut être à la fois aussi un placement et un soutien pour les familles qui restent, hein. Parce que quand vous avez 5 000 ou 6 000 euros à débourser, tout le monde ne les a pas. Maintenant, faut prendre la conjoncture actuelle. Maintenant, vous avez les familles qui sont un peu tous éclatées. Ils sont aux quatre coins du monde ou de la ville. Bon, partir le plus discrètement possible, hein. Partir comme on est venu, hein. C'est-à-dire un beau jour ou un beau matin, et puis. Éviter, mais ça on peut pas trop l'éviter, que les familles soient dans une détresse et dans une tristesse la plus totale, donc on mettra de la musique, quoi.
Au niveau national, la crémation se développe, et dans le Sud-Aveyron aussi.
Moi je reste très sceptique sur la crémation, parce que on dit qu'il y a plus en plus de crémations. Moi je peux vous garantir qu'ici on a plus d'inhumations que de crémations, d'une part parce que c'est la culture qui le veut, et la crémation, elle a quelque chose de bénéfique, c'est-à-dire que les cimetières, malheureusement, sont de plus en plus pleins, et c'est vrai que les mairies ont plus de difficultés à pouvoir étendre. Ça, c'est une... Alors, la crémation, elle réduit l'espace. Bon, mais ce que j'aime pas dans la crémation, c'est la prise en charge au crématorium, quoi. Je veux dire, moi, ça me convient pas. Moi, je ne ferai jamais de... Si je devais ouvrir un crématorium, je peux vous garantir que ça se passerait complètement différemment.
Ça n'existe pas, des structures un peu plus humaines au niveau des crématoriums?
Non,
c'est l'usine, enfin, il faut...
C'est l'usine, voilà, ouais. Voilà, c'est... Parce que je sais pas pourquoi il y a cette réglementation qui est aussi strict par rapport aux heures. Alors, parce que il faut en faire 4 ou 5 par jour, voilà, pour que ça soit sûrement vraisemblablement rentable. Moi, j'en sais rien. En plus, c'est quand même une usine à gaz, parce que pour ouvrir un crématorium, il faut être parrainé par un directeur de crématorium. En plus, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de crématoriums privés. Ils sont tous gérés par des sous-traitants, mais c'est toujours les mairies qui en détiennent l'exploitation. Alors bon, faudrait y regarder de plus près. Mais voilà,
c'est moins cher aussi, non, peut-être qu'une animation.
Non, faut pas croire. Ça, c'est ce que l'on dit. Pour faire une crémation, faut compter 1200 à 1300 euros. Si vous comprenez l'urne, hein, bon, le cercueil, hein, il y a tout. La crémation, c'est une action en plus. Parce que là, récemment, j'ai fait des obsèques. La personne était sous tutelle, donc il y avait un volant horaire qui était très très limité. La famille, elle, n'avait pas d'argent, et le monsieur voulait avoir une crémation. C'était son souhait. C'était écrit. Bon. La famille voulait respecter, ce que je comprends. Je dis, bon. Mais je dis, il n'y a pas l'argent, quoi. Je veux dire, bon, voilà, la tutrice ne peut pas régler. Je dis, vous ne pouvez pas régler, la tutrice ne peut pas régler la totalité. Maintenant, si on enlève la crémation, ça passe. Il y avait 1500 euros de crématorium, quoi. Voilà. Alors que, une inhumation, ici vous faites une inhumation, la mairie vous prend 250 euros ou 280 euros pour creuser, voilà, et vous avez plus les 1300 euros de crémation. Parce que faut quand même savoir que il y a 150 kilomètres à Albi, donc aller et retour, l'essence a augmenté, donc maintenant au lieu de faire 1 euro, hein, c'est 1,50 euro, et encore on est en dessous, mais enfin bon, faut pas exagérer non plus. Donc ça fait déjà à peu près 300 euros de trajet. Vous avez 80 euros d'administratif au crématorium, plus vous en avez pour 1080 euros plus 300, ça fait 1300. L'urne, on va dire que c'est 100, allez, 1400. Vous avez 1400 en plus. Pour le savoir.
En plus du cercueil.
Et... Ah ben, en plus du cercueil et tout ce qu'il y a dans. Alors qu'une inhumation, c'est quand même relativement moins cher. L'église prend 110 euros, voilà, la mairie prend 280, alors vous n'avez pas le droit de marger, parce que c'est des instituts, voilà, c'est nettement moins cher.
Joël, un conseil, quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui veulent se lancer dans ce métier?
Ah, ben, il faut être disponible. Si on ne fait pas du 24 sur 24, ce n'est pas la peine. C'est comme le social, si vous ne faites pas du 24 sur 24, ce n'est pas la peine. Vous allez faire autre chose.
Disponible et à l'écoute.
Ah oui, sinon c'est pas la peine. Si vous venez pour... parce que les gens vous disent « Ouais, ça gagne bien sa vie, une confinée. » Ouais. Si vous venez que pour ça, c'est pas la peine. Faut faire de demi-tour. Moi, je fais du 24 sur 24. Hein.
Merci beaucoup.
Eh bien, avec grand plaisir, Joseph.
Salut
et fraternité.
J'étais un grand bateau descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'Espagnols. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais attachée en poupe et par le col. Un jour, je m'en irai très loin en Amérique donner des tonnes d'or. Nègre du coton, je serai le bateau pensant et prophétique et Bordeaux coulera sous mes vastes pontons. Quel est long le chemin d'Amérique, qu'il est long le chemin de l'amour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, mon ami, je vieillirai. Rassasié d'anciens ployants sous les tropiques, un jour m'en reviendrai, les voiles en avant, porteur de blé nouveau, avec mes coups de trique, tout seul mieux qu'un marin, je violerai le vent. Harnaché d'Espagnols, remontant la Garonne, je rentrerai chez nous, éclatant de lueur. Les gens s'écarteront, saluant la Madone en coupe par le col et d'une autre couleur. Qu'il est doux le chemin de l'Espagne. Qu'il est doux le chemin du retour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, je te dirai, mon ami, à ton tour, à ton tour.